RCF.
Bonjour à tous et bienvenue au pied de la lettre, le rendez-vous avec la littérature sur RCF. Plus haut, toujours plus haut, plus loin, toujours plus loin, que peut-il bien arriver au cours d'un vol long courrier? Eh bien, au sortir d'un orage, d'une rare violence, le Paris-New York est détourné sur une base militaire. Les passagers ont eu la peur de leur vie et c'est souvent quand on l'a échappé belle qu'on s'imagine une autre existence. 3 mois plus tard, que sont-ils devenus? Que reste-t-il de cet incident en plein vol? Le destin croisé des personnages n'en a-t-il pas été bouleversé? L'Anomalie d'Hervé Le Tellier est publié chez Gallimard. Histoire d'avion encore, vers l'Est cette fois-ci, pour un Paris-Singapour mouvementé. De longues heures de vol durant lesquelles les personnages ont tout le temps de s'interroger sur leur passé et se projeter dans l'avenir, en quête de paix, de tranquillité, d'amour, de vie, ça plane pour eux. « Tombé du ciel » de Caroline Tinet est publié aux Presses de la Cité. Allez attacher vos ceintures au pied de la lettre, décollage imminent.
Au pied de la lettre, Christophe Hénin.
Bonjour Hervé Le Tellier.
Bonjour.
Alors, un roman époustouflant hein, qu'on ne lâche pas, avec beaucoup de personnages qui vivent des événements intenses et des personnages attachants. Ils vous ont surpris durant l'écriture? Ils ont pris des initiatives? Vous ont échappé? Ou bien leur destin était écrit d'avance?
Alors, vous connaissez la formule de Queneau qui dit que des personnages sont un peu comme un troupeau d'oies qu'on essaie de conserver dans la bonne direction avec de très longues baguettes. Mes personnages étaient plutôt... ils ont pris entre des baguettes très fines, donc je savais à peu près où ils allaient aller, j'avais une ambition très précise pour chacun d'entre eux, j'avais un désir très cerné de définir leur trajectoire et leur destin, donc j'ai pas eu trop de difficultés à les conserver dans cette direction-là. En revanche, il y en a qui se sont affinés au fur et à mesure que j'écrivais, et puis lorsqu'on a beaucoup de personnages, il y a aussi une dimension... jour après jour, lorsqu'on écrit chacun de ces chapitres, on est plus attiré par un personnage, puis par un autre, selon l'ambiance dans laquelle on est individuellement, personnellement. Quoi. Donc effectivement, il y a tout de même, c'est un roman qu'on... j'entends parfois le mot de chorale, pour moi c'est pas trop un roman chorale, il y a beaucoup de personnages, mais à aucun moment ils n'interagissent tous ensemble, ce qui serait le cas d'un roman chorale. Ils sont plutôt ce qu'on peut appeler des relations douces, entre eux, il n'y a pas de grand moment collectif.
Alors, on va reprendre le détail. L'anomalie, hein, Hervé Le Tellier, c'est le vol 006 Paris-New York d'Air France, le 10 mars 2021, qui traverse un orage d'une incroyable violence. Et puis le Boeing 787 encaisse les turbulences, finit par atterrir, et la vie reprend son cours pour les passagers. C'est un peu ça au départ?
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on va suivre 3 mois, c'est exactement 106 jours, 106 jours de ces différents personnages. Il y a à peu près, il y a de tout. C'est-à-dire, j'ai fait toutes les échelles d'âge à peu près, tous les genres, des avocates, des monteuses, des architectes. Enfin, tout ce qu'on peut trouver dans un avion, c'est assez divers un avion. Une femme de soldat américain avec sa fille. Donc tous ces personnages, on va les suivre pendant 3 mois, il va leur arriver beaucoup de choses, il y a même un tueur à gages, c'est même par lui qu'on commence. Et à la suite de ces 3 mois, on va découvrir que tous subissent une arrestation ou une interpellation par différents services, du FBI à la police française, et c'est le moteur finalement de chacune des fins de chapitre, ce qui fait qu'à chaque fois on se demande ce qui se passe et on essaie d'avancer dans le roman avec cette interpellation qui relance a priori la curiosité du lecteur.
Oui, alors c'est difficile de parler de votre livre parce qu'il ne faut pas qu'on révèle trop de choses, il faut que le lecteur effectivement puisse continuer à être tenu. 243 passagers et vous en choisissez quelques-uns.
Oui, moi j'en choisis je crois 7 ou 8, pas plus, dont le pilote, hein, qui n'est pas tout à fait un passager, mais je choisis aussi le pilote. J'essaie de les prendre selon des caractéristiques qui me paraissaient intéressantes par rapport à l'avenir du vol, c'est-à-dire étant donné ce qui arrive à ce vol qui, on peut le dire, subit une duplication, quoi. Alors, ça me dérange pas trop de le dire, parce que finalement, dévoiler ce qui arrive n'est pas gênant. Puis, au bout d'un moment, il faut quand même un peu révéler les choses. Puis, c'est pas mal à raconter. Donc,
effectivement, et puis, il faut aller voir, après, il faut les lire.
Donc, voilà, tous les personnages vont se retrouver en double. Et étant confronté à ce double, j'ai essayé de trouver une diversité très, très forte. Donc, les doubles sont amenés soit à se détester, soit à collaborer, soit à se séparer, soit à trouver des manières de vivre ensemble. Ou de ne pas vivre ensemble, d'ailleurs. Mmh. Et c'est vrai que le principal enjeu, c'était ça. C'est-à-dire, en choisir 8, c'était la possibilité d'avoir une grande diversité dans leur comportement, dans leur psyché, dans leur vie aussi, dans leur vie sociale. Ils sont tous très différents.
Oui, puis ça montre aussi duplication, hein, dont vous parlez, c'est que finalement les destins ne sont pas forcément écrits à l'avance.
Non. Non, c'est l'idée que même, non seulement ils ne sont pas écrits à l'avance, mais que dans notre vie individuelle, chacun d'entre nous peut être plusieurs fois dans la journée confronté à des bifurcations extrêmement importantes. On traverse la rue, on se fait écraser, on rencontre quelqu'un ou on ne le rencontre pas dans un endroit improbable. Enfin, la vie qui nous paraît relativement bien tracée, en fait, est une succession d'embranchements dont on ne maîtrise rien. Et il peut nous arriver des transformations essentielles chaque jour. Et c'était ça qui m'intéressait. En l'occurrence, évidemment, eux sont confrontés à un bouleversement en une journée. Mais on voit bien que sur les 3 mois qui vont se dérouler, chacun d'entre eux va subir... va suivre une trajectoire qui est à la fois très très différente et très que peut-être le deuxième qui réapparaît 3 mois plus tard n'aurait pas suivi. Et c'est à la fois un roman de l'interrogation sur qu'est-ce qu'on peut faire à la place d'un choix initial, et aussi un roman de la seconde chance pour certains d'entre eux, et puis la dernière chance pour d'autres. Mais c'est un roman du destin, de plusieurs destins même. C'est un roman qui interroge la manière dont soi-même, on essaye de vivre sa vie d'une manière à chaque fois, à la fois décidée et à la fois de manière totalement aléatoire, malgré l'énergie qu'on dépense pour croire qu'on la maîtrise.
Oui, parce que parfois, on voudrait aussi rembobiner en arrière, s'y reprendre autrement.
Absolument.
Or, vous montrez bien que la vie, ça se déroule, quoi.
Oui, la vie se déroule. Il n'y a pas de retour en arrière et toute tentative de retourner en arrière est confrontée soit à l'échec, soit à la répétition, et la répétition est en soi un échec. Alors, dans mes personnages, j'ai des séparations, j'ai des gens qui tombent malades, j'ai des gens qui vont tomber amoureux. Donc à chaque fois, ce bouleversement dans leur vie fait que confrontés à eux-mêmes, à un eux-mêmes qui est forcément différent 3 mois plus tard, ils vont devoir faire des choix qui sont des choix, je dirais, essentiels. Enfin, la question de l'essence est aussi posée dans ce livre, mais ça, c'est une autre question. Mais des choix, en tout cas, essentiels du point de vue de leur vie.
Mais c'est du coup, ça montre aussi la difficulté d'être soi-même, puisque finalement, en 3 mois de temps, on peut voir les choses totalement différemment.
On peut changer de manière importante. Et puis, la difficulté d'être soi-même, c'est aussi parce qu'on n'est jamais confronté à soi-même. Dès qu'on est confronté vraiment à soi, c'est-à-dire à quelqu'un qui est exactement notre double, qui a les mêmes souvenirs, les mêmes détestations, les mêmes amours, le questionnement de ce qui est vrai devient d'un seul coup extrêmement concret. Et je me suis intéressé, par exemple, à un de mes personnages qui est un architecte qui a sensiblement mon âge, c'est-à-dire un peu plus de la soixantaine, et qui, tombé amoureux d'une jeune femme, va se poser la question de savoir si cette amour est possible ou pas, alors qu'il se regarde, lui, dans ce couple très dépareillé. Mmh. Et évidemment, se vivre dans une relation amoureuse et se regarder dans une relation amoureuse, ce n'est pas du tout la même chose. Et il va en conclure que peut-être cette relation est impossible, alors que celui qui, lui, est pris dans cette relation dont il ne pense pas qu'elle soit vouée à l'échec, le vit tout à fait différemment. Donc ça m'intéresse de regarder la différence qui existe entre se regarder soi-même et regarder un autre qui est soi. Ce n'est pas tout à fait, pas du tout la même chose.
Et puis il y a aussi cet espace de création, de créativité. Il y a un écrivain, il y a aussi un chanteur nigérian. Il peut Alors se passer ça, quelque chose, oui.
Oui, ça c'est lié à une volonté que j'avais, qui était une volonté littéraire, qui était d'explorer différents genres. Et donc je commence par un roman noir avec mon personnage de tueur à gages. Et en commençant par ce roman noir, j'oriente le lecteur dans une direction qui n'est pas la bonne, je le trompe. Je lui dis, tu es en train de commencer un roman noir, alors qu'en fait, au bout de 10 pages, il bascule dans un roman qui est un roman psychologique. Et
c'est puis, aussi hein, parce que
tard,
vous êtes...
Il va tomber dans un roman sentimental.
Oui, je voulais dire simplement, ce petit jeu, c'est aussi parce que vous êtes membre de l'Oulipo. Hein.
Oui, oui, oui. C'est un jeu qui est un jeu amusant parce que, évidemment, on joue avec ce qu'on peut appeler des clichés de ces différents genres, qui sont des clichés non seulement de situation, mais aussi des clichés d'écriture. Donc c'est intéressant de se tourner vers un roman noir dans lequel la structure des phrases est différente de celle d'un roman psychologique, où on va plutôt aller vers des phrases plus longues, des propositions internes, des digressions, alors que dans le roman noir, on est pas dans le sujet vers complément, mais quasiment. Et c'est intéressant de passer d'un style à l'autre et de proposer au lecteur d'associer les personnages à chaque fois à un style très différent. En plus, ça ancre les personnages dans une réalité, qui est une réalité de langue, une réalité de littérature. Et ça m'intéressait. Et puis, au fur et à mesure que le roman avance, ces styles finissent par fusionner pour donner une unité à tout le roman. Et quand on arrive vers le milieu du roman, et dans un roman qui est, lui, entièrement, unifié stylistiquement, même si on retourne parfois sur des narrations intérieures qui font qu'on bascule. Mais ça, c'est une sorte de cuisine d'auteur, mais ça a un effet sur le lecteur. Je pense que c'est pas sans effet du tout que de se retrouver à chaque fois plongé dans le personnage et dans son style littéraire.
Ça veut dire que vous menez vos personnages, mais vous menez aussi par le bout du nez le lecteur. C'est un peu votre...
Oui, je pense que c'est l'intérêt des livres, c'est d'être pris par un livre et d'être emmené jusqu'au bout en étant entièrement... tiré par un fil dont on ne voit pas l'existence, mais qui fait qu'on ne lâche pas le bouquin. Et je voulais un livre qu'on ne lâche pas. Je voulais un livre qui, à chaque fois, ait des relances, qui, à chaque fois... Alors, ça jouait avec des... J'avoue que ça jouait avec des systèmes qui sont des systèmes de page-turner américain que j'ai lu quand j'étais adolescent. Et j'avais envie de retrouver ce jeu-là, qui est un jeu d'aller-retour avec le lecteur, qui est un jeu dans lequel chacun sait que... On se moque de l'autre, hein. C'est un jeu amusant, c'est un jeu de complicité. Et ce jeu de complicité, ben, on va jusqu'au bout de la chose, quoi. On lui propose justement l'arrivée de la police, l'arrivée du FBI, et puis on fait basculer sur un autre personnage à chaque fois. Et le but, c'est vraiment d'avoir un lecteur qu'on emmène du début à la fin du livre sans qu'il puisse lâcher le bouquin. C'est vraiment un projet qui parfois n'est pas réussi, qui parfois est réussi. Là, ça dépendra des lecteurs, évidemment, et de ce qu'ils sont, du pacte qu'on passe avec lui. Et j'espère que ce pacte sera passé avec beaucoup de lecteurs.
Est-ce qu'il y a aussi un peu une incursion du côté de la science-fiction, du fantastique, parce que vous faites intervenir les scientifiques qui se réunissent dans une salle des hypothèses?
Oui, c'est ce qui existe. En général, quand il y a un problème de nature scientifique, il y a une salle des hypothèses qui se met en place. Pour moi, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas de l'anticipation. Ça se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que ça se passe demain, quoi. Ça se passe l'année prochaine. Donc pour moi, c'est plutôt une proposition de réflexion sur le monde tel qu'il est. C'est une proposition de réflexion, ce qu'on peut appeler une expérience de pensée, quoi. C'est-à-dire, un petit peu comme vous savez, en physique, on propose l'expérience des jumeaux de Langevin, qui sont ces deux jumeaux, l'un qui reste sur Terre et l'autre qui part dans les étoiles et qui revient 30 ans plus tard et qui n'a pas vieilli parce qu'il va à la vitesse de la lumière ou presque, alors que son jumeau lui a vieilli de 30 ans. Et donc c'est une expérience qu'on ne peut pas réaliser aujourd'hui, mais qu'on peut proposer en revanche au lecteur. Là, je propose une expérience de pensée qui consiste à se dire, bon ben voilà, si tu es en double, que se passe-t-il? Et quelles sont les hypothèses scientifiques qui permettent de valider cette situation qui t'arrive, et qui arrive donc à 243 personnes? Qu'est-ce qui fait que dans l'univers, cette chose peut être possible? Alors, les scientifiques évaluent plusieurs hypothèses, l'une apparaît plus plausible que les autres, elle n'est pas très gaie. Et les religieux aussi, on leur propose de réfléchir à cette question. Puisque à la fois, ça se passe en partie aux États-Unis, donc les États-Unis, qui est un pays très religieux, se posent toujours des questions différentes de celles qu'on peut se poser en Europe. Et la question de la, de questionner les différents cultes aussi m'intéressait. Donc j'ai interviewé beaucoup de gens sur ces questions.
Et puis aussi, il y a une dose d'humour, peut-être de moquerie vis-à-vis justement la communauté scientifique. Un professeur sans théorie, c'est comme un chien sans puce, dit, écrivez-vous, ou encore, je ne connais pas de problème qui résiste à une absence de solution.
Oui, mais c'est pas une moquerie vis-à-vis des scientifiques, c'est-à-dire que il est bon que des théories existent pour être confrontées, pour être débattues et pour être acceptées ou refusées. C'est le principe même de la science que de douter, donc c'est pas vraiment une moquerie, c'est juste la réalité d'un monde dans lequel des scientifiques essayent de résoudre une question qu'ils auraient posée, qui leur a jamais été posée auparavant. Donc j'essaie de traiter cette question avec humour parce qu'elle est sinon relativement angoissante.
Bien sûr.
Et puis que je pense que des scientifiques réagiraient de cette manière. J'imagine assez bien mes scientifiques, mes mathématiciens en particulier, avoir ce genre de distance vis-à-vis des hypothèses qu'ils sont amenés à formuler par nécessité.
Mmh. Vous l'avez
ça
dit.
Ça ne dérange pas de les imaginer tâtonner.
Mmh. Vos personnages tâtonnent aussi. Hein. Tous ces passagers qui sont regroupés, vous l'avez dit, chacun suit un petit peu son destin. Et en même temps, ils ont du mal à s'interroger les uns les autres.
Oui, parce que je pense que lorsque ça nous arrive, on a besoin d'un soutien psychologique, mais qu'on ne pourrait pas vraiment tirer de l'expérience de l'autre grand chose. Je pense que chacun doit, dans une situation aussi extrême, ne peut apprendre que de soi. Et déjà, on a un soi face à soi pour s'interroger, donc c'est déjà beaucoup. Et puis, chacun d'entre eux est assisté par des psychologues qu'on voit intervenir de temps en temps. Mais il ne me semblait pas qu'il y avait un... Enfin, j'avais réfléchi à cette question de la confrontation, et finalement, je l'ai évité d'abord pour des raisons de distance aussi. Hein. Je ne voulais pas faire un dur fleuve. Et je voulais me limiter à des choses qui correspondaient à ce qui, à mon avis, arriverait si une situation pareille se présentait. Je pense qu'on n'irait pas chercher conseil auprès de quelqu'un à qui c'est arrivé aussi. On irait chercher conseil auprès de scientifiques, auprès de religieux, auprès de psychologues, et auprès de son double. Mais on n'aurait pas grand-chose à tirer de quelqu'un à qui il arrive la même chose, parce que justement, il n'arrive pas la même chose.
Mmh. Alors...
Parce qu'on est tous très différents.
Caroline Tinet, qui est avec nous aujourd'hui aussi, vous avez lu son roman « Tombé du ciel » paru aux Presses
oui,
de la Cité.
Vu, oui.
Là aussi, il y a une sorte de destin qui se joue au cours d'un vol, dans un avion. Où, là, pour le coup, il y a un peu d'interaction entre ces personnages. Qu'est-ce que vous avez ressenti à la lecture de ce livre « Tombé du ciel »
C'est un livre, c'est un roman assez mélancolique. C'est un roman qui est le roman d'un... Il y a plusieurs destins simultanés. Il y en a un qui est le plus décisif par rapport au roman que tous les autres, qui est celui de ce personnage qui est sur le point de mourir et qui finalement une anomalie dans ce vol qui fait qu'il est détourné et que tous les personnages doivent subir ce déplacement de l'avion vers un autre aéroport. Ben, j'ai trouvé que c'était un roman, effectivement, oui, qui pose la question de tous ces destins qui sont tous très très différents dans un avion. Ça va du pilote dépressif à l'ado qui a peur du ciel, au souvenir d'amour avec un passager pour un personnage qui a été hôtesse de l'air. C'est effectivement lui un roman plus choral, qui est plus intérieur aussi, puisque ça se passe intégralement au cours d'un vol. On est dans la psyché du narrateur principal. Ce qui est une différence importante par rapport à l'anomalie, par exemple. Donc c'est une autre structure, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant.
Mmh. Le vol, justement, ce Paris-New York d'Air France, c'est aussi là le point de départ, mais c'est plus que ça peut-être. C'est une sorte de point, de nœud crucial.
J'avais besoin d'un lieu qui était un lieu fermé avec beaucoup de personnages. Donc il n'y avait pas beaucoup d'options, il y avait en gros l'avion ou le bateau, et c'était presque et je voulais en plus quelque chose qui se passe au niveau planétaire, donc je voulais quelque chose qui aille loin. Et je préférais l'avion pour des raisons qui tiennent à la durée du vol, qui est très courte. Et pour réaliser cet accident, j'ai interviewé plusieurs pilotes qui tous m'ont raconté des turbulences. Donc j'ai essayé d'être le plus près possible de ce qui se passe dans un avion confronté à des turbulences. Et ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé, parce qu'évidemment, dans un roman, lorsqu'on veut créer des personnages et qu'on veut qu'ils aient une identité, il faut que les métiers qu'ils exercent soient exercés au plus près de la réalité. Donc l'architecte est vraiment architecte, il utilise des termes d'architecte, l'oncologue est vraiment oncologue, et donc il connaît parfaitement ce que c'est qu'un bolus de morphine. Et puis mes deux pilotes qui m'ont aidé à écrire ces chapitres consacrés aux turbulences ont permis que ces moments, un peu comme justement dans Pompée du ciel, soient des moments qui sont pénibles à lire pour un lecteur. On espère que quand un lecteur lit ce moment des turbulences, il est aussi lui un peu malade.
Un peu secoué.
On espère faire passer faire passer les turbulences dans le texte lui-même, quoi. Mmh.
Ça renvoie vos personnages à leur fragilité. Ça nous renvoie tous peut-être à la fois à notre fragilité et puis peut-être à l'audace de vivre.
Oui, je crois qu'un de mes personnages, qui est justement celui qui va finalement être le narrateur, sans être le narrateur, parce qu'il n'y a pas de narrateur, mais qui est un des personnages centraux, qui est Victor Meusel, et celui qui subit le plus finalement la tempête et qui est transformé psychiquement par les turbulences qu'il va vivre dans cet avion, au point de subir une impression de déréalité et de sortir de ce moment où il a failli mourir ou cru mourir, différent de la manière dont il est rentré. Donc c'est pas le même homme qui descend de l'avion.
Voilà, des personnages vraiment à découvrir. C'est L'Anomalie, Hervé Le Tellier. Merci, paru chez Gallimard. On va écouter un extrait lu par Stéphanie Gallet.
Tous les vols sereins se ressemblent. Chaque vol turbulent l'est à sa façon. Il est 16h13 quand le vol AF006 Paris-New York, au sud de la Nouvelle-Écosse, voit se dresser devant lui la barrière ouatée d'un immense cumulonimbus. Le front nuageux se lève, et vraiment vite. Il est encore à un quart d'heure de navigation, mais il s'étend au nord comme au sud, sur des centaines de kilomètres, en arc de cercle, et plafonne déjà à près de 45 000 pieds. Le Boeing 787, qui vole à 39 000 et allait amorcer sa descente vers New York, ne saurait y échapper. Et le cockpit connaît une brusque agitation. Le copilote compare les cartes et le radar météo. Le large front froid nuageux n'était pas signalé. Et Gilles Favreau n'est plus seulement surpris, il est franchement inquiet. Le mur opaque, gris, irisé en son sommet par un soleil éblouissant, pousse vers eux à une vitesse folle, avale avec voracité la couche nuageuse qui le nourrit et le soutient. Le commandant Markle affiche la fréquence de Boston, examine les instruments, le radar météo qui se colore de rouge à 120 nautiques. Il hoche la tête, pose son café, quand Boston émet sur sa fréquence. À tous les avions sur Boston Control, en raison des conditions exceptionnelles sur la côte Est, tous les terrains sont fermés, à l'exception de KJFK.
Alors chier, partir, sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan-American, mais je sais plus. Où je suis rendu, j'ai été au sud du sud, au soleil, le blanc, les palmiers et les cocotiers glacés dans les peaux, aux esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours la Sophie qui venait de partir.
Lindbergh, chanté par Robert Charlebois, c'était en 1968, au pied de la lettre, avec Hervé Le Tellier pour L'Anomalie, paru chez Gallimard, et Caroline Tinet pour Tomber du ciel, aux presses de la Cité.
Au pied de la lettre, RCF.
Bonjour Caroline Tinet.
Bonjour.
Vous êtes journaliste. Tombé du ciel, c'est votre quatrième roman. Vous êtes aussi un écrivain trop rare, hein, depuis le prix du premier roman pour L'Immeuble, c'était en 1990. Il faut du temps pour écrire un roman, prendre son temps?
Oui, il faut du temps, mais il faut dire que j'ai dirigé un journal, un magazine, pendant 12 ans, à un moment donné, entre mes deux premiers romans et les deux derniers, et j'avais vraiment pas le temps. Oui.
Ça prend du temps. Des livres, des histoires, au pied de la lettre, il y a aussi une place toute particulière pour la poésie avec Stéphane Bataillon qui nous rejoindra chaque semaine. Il nous propose un poème pour la route. Et puis on retrouvera aussi un auteur malheureux dont le livre est sorti pendant le premier confinement, pendant le premier semestre, alors même que les librairies étaient fermées, un petit peu comme en cette fin d'année, séance de rattrapage. Tout à l'heure. Alors, pendant 10 ans, Talita, 33 ans, hôtesse de l'air, de cette vie à 10 000 mètres d'altitude, elle garde une nostalgie telle qu'elle voyage à toutes les occasions, notamment parce qu'il n'y a rien de tel pour écrire et raconter sa vie. C'est un peu ça, Caroline Tinet, votre roman, Tombé du ciel.
Oui, c'est un peu ça. Enfin, c'est un roman choral et Talita... Talita est celle qui relie un peu tous les autres entre eux, mais oui, c'est quelqu'un qui avait des problèmes d'expression personnelle et qui adore partir dans le ciel, parce que dans un avion, elle peut pas s'échapper ni échapper à ses propres pensées, et elle en profite pour essayer de faire le point sur ce long courrier-là.
Donc l'histoire se passe dans cet avion, le vol Paris-Singapour. Il y a des passagers, il y a beaucoup de passagers, 400 places même, mais on va s'arrêter sur quelques-uns. Le roman nous parle de quelques-uns au destin tout à fait particulier lors de ce vol. Des passagers qui ne se connaissent pas au départ.
Ouais, c'est des passagers qui vont se rencontrer ou émerger les uns après les autres, qui sont tous dans un stade de déséquilibre dans leur vie et qui vont profiter de ce huis clos et de cette période un petit peu où ils sont bercés dans les airs pour essayer de trouver un équilibre. En fait, j'ai choisi un avion parce que je trouve que l'avion, il lutte contre son propre poids pour trouver l'équilibre, et je trouvais que c'était une belle métaphore, quoi. C'est un peu le souci de tous ces passagers, ceux que j'ai choisis, qui cherchent à retrouver un équilibre, à échapper à leur destin. Voilà, probablement.
C'est pas n'importe quel avion. Vous avez choisi un A380 Airbus. Dites-nous un peu pourquoi ce choix. L'avion est quasiment un personnage dans cette histoire.
Bon, je pense que c'est le personnage central même. C'est un avion que j'ai pris souvent, que je connais bien, qui est gros, anonyme, rassurant, qui fait pas de bruit.
Un peu pâteau quand même, non?
Un peu pâteau, il est un peu il est un peu rien du tout, quoi,
un peu rustique,
tout en étant en même temps assez formidable. Et puis je me doutais qu'on allait arrêter sa production, parce que j'avais entendu pas mal de choses et lu pas mal de choses à ce sujet. Et effectivement, alors que j'en étais peut-être aux trois quarts de l'écriture, j'ai appris qu'on allait arrêter sa production. Et donc c'était un peu un message. Je trouve que c'est un peu un message d'amour à la 380 que j'ai beaucoup aimé. Et puis ça a un rapport avec la personnalité du pilote, du copilote.
C'est un peu le dernier voyage.
Ouais.
Même si après vos différents personnages continuent d'exister, continuent leur vie, mais on sent quelque chose qui se joue dans ce voyage.
Ah ben je pense que s'ils n'ont pas résolu ce qu'ils cherchent à résoudre à la fin de ce voyage, ils seront mal, quoi. Alors, je ne dis pas s'ils vont continuer à être mal ou pas, je ne vous le dis pas là, mais c'est quelque chose d'important. C'est une espèce de mise au point de leur vie, de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils comptent faire, ou alors ils sont à la recherche, ils cherchent à savoir ce qu'ils veulent faire. Et puis, ce qu'ils vont devenir, oui.
La destination est importante, Singapour?
Non, c'était un vol de nuit.
Un vol assez long.
Et que je voulais un vol long et de nuit, et un vol que je connaisse.
Il y a une sorte de mise en danger, hein, malgré tout. On sent bien dans vos différents personnages que il y a quand même une peur de l'avion, en tout cas un lien à l'avion qui est tendu.
Oui, ben d'abord c'est un huis clos, un confinement. Bon, c'est un hasard, mais ça tombe bien.
On voit ce que
ça
veut dire.
C'est un huis clos. Quoi ?
On voit ce que ça veut dire aujourd'hui, confinement.
Ouais, c'est un huis clos, un confinement. C'est oppressant. Bon, à un moment, il y a quand même beaucoup de turbulences qui font écho à leurs propres turbulences. Donc ils croyaient être dans un environnement assez sécurisant, et je pense que petit à petit il y a des montées d'angoisse. Mais je pense qu'il faut passer par là pour y échapper. Hein.
Même Talita, ancienne hôtesse de l'air, on sent que voler, c'est aussi pour conjurer une certaine peur.
Oui, mais elle, c'est une peur plus pathologique, quoi. C'est une peur qui remonte probablement à l'enfance et elle ne connaît pas d'autres moyens de vivre. Donc elle est en train de chercher, notamment elle cherche à se sortir d'une histoire d'amour plutôt foireuse. Mmh. Et qui a été aussi jonchée d'un sentiment de peur et d'insécurité. Donc je pense qu'elle, c'est quelqu'un qui fuit un peu la réalité, Talita. Et elle se sent bien à l'intérieur d'un avion, parce que d'ailleurs elle dit toujours qu'elle s'endort dans les fauteuils en forme de coque, parce que ça ressemble à un berceau d'enfance. Elle se sent à l'aise dans un endroit où elle est enfermée, quoi.
Oui, c'est pour elle beaucoup de choses quand même, l'avion. C'est aussi, quand elle repense à son métier d'hôtesse de l'air, le besoin d'être utile, de tenir ses passagers en main peut-être, d'être au devant de leurs moindres besoins. Il y a une sorte de...
Ouais, c'est peut-être sa manière à elle d'être reconnue. Elle sait pas trop comment se comporter, et quand elle est dans une situation un peu de contrôle, parce que elle est vraiment à l'aise dans un avion, ben elle se sent utile, quoi.
L'avion, c'est le vol, c'est donc son espace professionnel. C'est aussi un espace d'écriture. Peut-être quelque chose que vous avez vous-même éprouvé.
Un espace d'écriture. Oh, bon, oui, enfin moi, je voyage toujours avec mon ordinateur, je prends des notes et tout, mais enfin, c'est pas le seul.
Vous n'avez pas écrit votre roman entre deux aéroports. Mais pour elle, c'est bien un espace où elle peut mettre les choses à plat, peut-être.
Ben, ça lui permet de. Elle le dit elle-même, je crois, si je me souviens bien, elle dit que ça lui permet d'enlever des poisons de la tête. Quand elle est dans l'air et pas sur terre, elle se sent beaucoup plus libre. Et donc elle arrive à écrire quelque chose, un peu comme une espèce de confession d'ailleurs, ce qu'elle n'arrive pas du tout à faire quand elle est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, elle attend, de toute façon, elle attend de voler. Elle se sent pas bien sur la terre. Et écrire là dans cet avion, elle en a besoin pour régler un problème précis. Et en plus, là aussi, il va se passer quand même un problème avec les turbulences. Et là aussi, elle va être utile. Ça nous permet aussi d'expliquer quels sont tous les détails techniques d'un avion, que je trouve assez poétique d'ailleurs. Et puis, elle est aussi capable de comprendre qu'il risque de se passer quelque chose de grave et qu'elle le vit assez bien. Elle est assez zen, finalement, même si c'est quelqu'un d'un plutôt angoissé.
Allez-y.
Non, je pense qu'elle résout pas mal de choses quand même sur ce vol. Est-ce que c'est pas quoi ?
Est-ce que c'est pas finalement une femme d'action ?
C'est une drôle de question, ça.
Parce qu'elle prend un peu les choses en main. Enfin, on va pas tout raconter, mais voilà,
oui.
L'avion va connaître quelques turbulences, vous l'avez dit.
Oui.
Ça va quand même mettre, si ce n'est en danger, en tout cas mettre en mouvement beaucoup de choses. Chacun va un peu bouger de sa place. Et elle paraît sereine et rassurante.
C'est une femme d'action dans la mesure où elle a toujours, enfin, ça fait très longtemps qu'elle vit dans cet univers-là, qu'elle prend les choses en main, qu'elle connaît, elle sait un peu ce qui peut se passer en cas de cas grave, donc elle n'est pas forcément aussi inquiète que les autres. Et puis son boulot, c'est quand même, toute façon, de faire en sorte que les gens soient à l'aise, pas trop angoissés. Tout d'un coup, elle devient une espèce de mère. Comme elle a été très impressionnée par sa mère à elle. Donc ça, comme je le raconte dans le livre, je peux le dire. Mm-hmm. Mais tout d'un coup, elle devient une espèce de mante, pas forcément religieuse, mais quelqu'un qui recouvre tout et qui a une vraie importance.
On sent, à un moment, vous le dites, il y a un personnage qui voudrait s'inventer d'autres vies que la sienne. Il y a un petit peu ça qui peut se jouer aussi pour plusieurs personnages. C'est une sorte de bascule au cours de ce vol.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je pense qu'en plus, quand ils sont dans l'avion, ils peuvent imaginer qu'ils ont d'autres vies, qu'ils vont avoir d'autres vies. Et en tout cas, qu'ils vont transformer la leur et que ça fera une autre vie. Ils cherchent tous à ça. Ils cherchent tous ça. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs tout ça m'est venu à l'idée, mais je trouvais ça intéressant d'avoir un endroit où ils peuvent justement réfléchir à leur vie et essayer de comprendre pourquoi elle ne leur convient pas. Et voilà, je pense que il y aura quelque chose de résolu vers la fin. Et c'est pas forcément, c'est pas une fin de bisounours. Hein. Mm-hmm. C'est pas tout d'un coup tout va bien, mais
chacun reste avec son passé, malgré tout.
Pardon ?
Chacun reste avec son passé.
Ah ben oui, ça, on ne peut pas y échapper. Mais on peut s'en accommoder.
Alors, celle qui a de l'avenir, évidemment, c'est Leïla, qui a 15 ans, surdouée, Asperger. Elle est habituée des vols d'avion, mais elle est aussi habitée de peur. Peut-être que c'est elle aussi qui se nourrit des autres, parce qu'elle observe beaucoup.
Ouais. Oui, vous avez raison. Et elle a du mal à avoir les pieds sur terre, mais c'est une grande observatrice et ce qu'elle en retire est pas forcément très encourageant d'ailleurs.
C'est vrai.
Mais je trouve que c'est quelqu'un qui est très adulte malgré son jeune âge et qui s'encombre pas vraiment de beaucoup d'empathie.
Elle, il y a une forme effectivement de elle a un regard acéré sur les personnages qui sont autour d'elle, hein, quitte à,
ouais,
justement
les
à les phagocyter presque.
Ouais, mais les personnages autour sont quand même ont une sensibilité développée autrement que la sienne. Mmh. Elle est plutôt sur l'efficacité et puis le jugement acéré au scalpel, ce qui lui permettra d'avoir une action importante à la fin du livre. Mmh. Et elle gagne du temps tout le temps, quoi. Elle est pas, elle, son passé, il la marque un peu malgré elle, hein, à cause de son syndrome d'autisme. Mmh. Mais elle est, je suis pas sûre qu'elle essaye d'échapper à son passé. Son problème n'est pas vraiment là. Son problème, c'est d'avancer comme elle peut.
Alors, on va parler d'un autre personnage aussi. Il y a Saoul, le copilote, qui est à la fois super entraîné et en même temps, vous nous le décrivez comme un homme, j'allais dire ordinaire. En tout cas, un homme qui porte aussi ses fragilités.
Ben, c'est un homme hyper fragile. Et comme il avait tout misé sur son rôle dans le A380 et son avenir dans le A380...
Patatras.
Quand il a A380, ouais,
oui, je dis patatras puisque
puisqu'on en arrête la production et bon, ses rêves s'évanouissent alors que de toute façon c'est quelqu'un qui ne pouvait fonctionner qu'avec des rêves tellement il n'est pas ancré dans l'existence comme quelqu'un d'équilibré, hein. Donc bon, on a un peu cette histoire là, je veux dire, c'est une histoire de il a une sorte de dépression et c'est pas très simple d'avoir une dépression quand vous pilotez un avion.
Je reprends, hein, simplement. Alors, il y a d'autres personnages. J'ai côtoyé, dit Talita, j'ai côtoyé toutes sortes de gens dans les avions, des gens de passage avec des histoires de vie étranges, des expériences différentes. Des enfants voyageant seuls qui se sentent perdus, des angoissés qui se confient à vous parce que vous êtes là, des personnages que la parenthèse d'un vol fait paraître plus sincères. C'est une façon aussi de montrer un peu vos personnages à découvert à travers ce vol.
À découvert les personnages que j'ai choisis, vous voulez dire
Vous les décrivez sans phare, justement, ils sont face à leur vérité.
Oui, mais en plus, je crois que j'ai eu besoin de rentrer très, 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 très précisément et très de manière très proche d'eux, j'ai eu besoin d'analyser tous ces personnages, de détailler leur psychologie, sans faire de la psychanalyse, hein. Et j'avais besoin d'aller au plus près de ce qui pouvait être et exprimer, de voir, d'essayer de les mettre totalement à nu pour qu'on les comprenne. Et ils me sont apparus comme ça. Je sais qu'à un moment, je les ai tous eus dans une pièce, enfin dans mon bureau. Mmh. Et c'était très, très bizarre. Il y avait des conversations qui s'engageaient alors que mon livre comporte vraiment très, très peu de dialogue ou pas du tout. Mais ils avaient besoin que je les fasse vivre. Je sais pas, c'est compliqué à expliquer, mais ils avaient besoin de se délivrer de cette oppression et de cet enfermement qui les caractérise tous, hein, finalement. Ils avaient besoin de sortir de leur passé, peut-être de découvrir leur avenir, quelque chose comme ça.
Est-ce qu'ils vous ont échappé pendant l'écriture ?
Ben, ils m'ont échappé plutôt à la fin. Ils sont, de toute façon, les personnages, à partir du moment où on les découvre complètement, enfin, moi, j'ai besoin de savoir exactement qui ils sont, à quoi ils ressemblent. C'est peut-être aussi mon passé de journaliste, hein, je sais pas, mais mm-hmm. J'ai besoin d'avoir comme une espèce d'enquête à propos de chacun. À partir du moment où j'ai tout découvert, ben oui, ils m'échappent un peu. Et là, ils m'ont échappé quand ils se sont retrouvés finalement autour de quelque chose d'un peu dramatique. Et là, c'était, comme une espèce d'épilogue, hein. Mais ils m'ont échappé, mais j'ai vraiment gardé beaucoup d'empathie à leur égard, et il y a de l'amour qui circule dans cet avion. Je sais pas si vous.
Oui, tout à fait. En tout cas, des interactions, une forme de rencontre entre les différents personnages qui viennent d'univers très très différents, des personnages que vous renvoyez aussi peut-être. Parce que chacun revient sur son destin, mais vous les renvoyez un peu à leur responsabilité. Alors, lui ne fait pas partie du vol, hein, mais c'est un des personnages que vous décrivez, qui n'est pas donc dans l'avion, mais il se plaignait, écrivez-vous, d'avoir été meurtri par la vie. Je savais qu'on n'est jamais meurtri que par soi-même. C'est une manière de renvoyer chacun à sa responsabilité, peut-être, et à sa liberté.
Oui, oui. C'est une manière de renvoyer chacun à son libre arbitre aussi. Enfin, celui dont vous parlez, c'est ouais. Le seul qui soit pas vraiment aimable au sens premier du terme, hein. Il est vraiment compliqué et
il intervient dans
pervers.
Une histoire d'amour, on va dire, hein.
Ouais, ouais. Donc c'est aussi exprès que je l'ai pas mis dans l'avion, parce que ceux qui se rencontrent dans l'avion, ils sont quand même liés par quelque chose d'assez sensible, et puis des sentiments d'amour dont ils sont pas conscients. Mais s'ils se sont attirés les uns les autres, c'est qu'il y a quelque chose qui les lie dans leur inconscient.
Une sorte d'ouverture à l'autre,
oui, je pense.
D'émotions possibles.
Ouais, ouais, ouais. Et puis, je pense que c'est des gens, je pense que dans la vie, on peut pas tout comprendre. Hein. Qu'on laisse de la place aux rêves, et ils sont tous dans cette situation-là, à part peut-être Leïla, qui, si elle tombait dans le rêve, perdrait peut-être la tête, hein. Donc elle est assez, c'est l'adolescente dont vous parliez tout à l'heure. Donc elle est, elle, assez consciente du fait qu'elle doit essayer de tout comprendre. Mais les autres acceptent de ne pas tout comprendre. Ils laissent le rêve, faire partie de leur vie, et c'est un élément important de leur personnalité à chacun, je crois.
Alors dans votre histoire, il y a encore des turbulences, une tempête, simplement, je reprends, c'est d'ailleurs un chapitre intitulé « Turbulence », hein, cumulonimbus, orage, altitude, calme, patience, ceinture, onomatopée stridente, mots hachés, perdus dans le vacarme, grêlons qui frappent, battent la carlingue, secouent la carcasse qui va se désosser, va et vient vertical, en haut, en bas, en haut, en bas. Sensation de chute brutale, des cris, des objets qui tombent, la lumière qui s'éteint, le bruit des moteurs qui ralentissent, l'avion qui descend. Et ça renvoie un petit peu aussi à ce qui se passe dans le roman d'Hervé Le Tellier, dont il vient nous parler. Là aussi, grande tempête. Vous avez lu L'Anomalie, Caroline Tanné, ouais. Tiné, qu'est-ce que vous avez retenu du roman d'Hervé Letellier ?
Moi, j'ai été assez surprise parce que je m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi précis et haletant. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il... Enfin, moi, j'en ai gardé un sentiment de polar, de science-fiction. Et très, très, très tendu, avec des dialogues tout le temps et avec des personnages hallucinants. De toute façon, c'est l'imaginaire d'Hervé Letellier, il est hallucinant, quoi. Il est allé dans tous les sens. Mais j'ai trouvé ça assez virtuose. Voilà. Je sais pas si j'ai vraiment pu m'identifier à qui que ce soit là-dedans, mais j'ai trouvé ça fou, quoi. Et au moins, l'intérêt d'un roman, c'est qu'on essaye d'échapper aux conventions ou aux styles convenus. Et ça, je pense que...
Quelque chose qu'il a assez réussi. Si on revient juste à votre roman, on le disait, l'avion lui-même, c'est déjà un personnage. On voit vos personnages évoluer dans l'avion, dans les cabines, mais il y a aussi ce cockpit qui est un centre névralgique, finalement. Peut-être le lieu du drame possible, toujours.
Ouais. Ben oui. Cockpit, et puis cockpit, c'est tout petit en plus, mais il peut s'y passer des choses très très gigantesques. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Et ça m'a vraiment interpellée. C'est comment dans ce tout petit centre névralgique, comme vous dites, on se doute bien qu'entre pilotes, et en cas d'inquiétude, c'est là que ça se passe. Mais c'est quand même... Quand on est passager, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans le cockpit. D'abord, les pilotes, ils peuvent être hyper décontractés. Et si on le savait, on aurait un peu peur. On a toujours l'impression qu'ils sont rivés à au pilote automatique ou à la radio et aux commandes. C'est vrai, mais en même temps, ils peuvent s'en détacher. Ou alors, comme dans ce roman-là, il y a vraiment des problèmes d'équilibre psychique avec un des pilotes, c'est complexe, hein, et c'est très inquiétant, et mais les passagers ne le savent pas. Donc, oui, c'est un endroit où il peut se passer des tas de choses qu'on n'imagine pas.
Tombé du ciel, donc, hein, c'est le roman de Caroline Tinet, paru aux presses de la Cité. Stéphanie Gallet va nous lire un petit extrait de ce livre.
L'avion est devenu ma famille volante, un huis clos miniature qui retourne le monde extérieur vers mon monde intérieur. J'y puise un moment de divagation. Je deviens mon exploratrice de la vie que j'observe en face, en arrière, en avant. Les équations que je ne sais pas résoudre quand je suis à terre s'évanouissent au rythme de l'avion qui décolle, remisé dans un grenier tel des objets oubliés. Qui n'a pas rêvé de s'élever dans les airs, regarder la terre comme un cliché panoramique, résumé à des formes essentielles et lointaines, se sentir ailleurs, étranger à soi-même. Dès que je m'envole, je me sens libre, grisé par l'aventure, la rencontre avec le bleu dur du ciel qui surgit après une épaisse couche de nuages. Pas un bleu de conte de fées, un éclat soudain, un électrochoc. Les sensations extrêmes me bercent, allègent mon corps et ma tête. Avec le ciel, je cesse de ruminer et je me consacre aux passagers. Ceux qui sont montés à bord, fatigués, anxieux, de mauvaise humeur, finissent par ronronner comme des chats. Ils recherchent la meilleure position sur leur fauteuil, s'étirent, ébaillent, enlacent leur coussin ou restent tendus parce que le ciel leur fait peur. Dans tous les cas, ils confient leur destin à une grosse machine qui prend leurs soucis en charge. Après le décollage, presque tous ont le front détendu, une amorce de sourire aux lèvres, l'envie de vivre une parenthèse. Il y aura peut-être des rencontres inattendues, des disputes ou des coups de foudre, des cadeaux du ciel.
Tombé du ciel, à travers les nuages, quel représage pour un aiguilleur du ciel. Tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil. Tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle. Tombé
tombée du ciel, rebelle aux louanges, chassée par les anges du paradis originel, tombée de sommeil.
Tombée du ciel, Jacques Higelin, c'était en 1988, au pied de la lettre aujourd'hui, avec Hervé Letellier pour L'Anomalie, paru chez Gallimard, et Caroline Tinet pour Tombée du ciel aux presses de la Cité.
Au pied de la lettre, RCF.
Second confinement, et puis il y a eu le premier confinement pendant le premier semestre 2020. Alors on va continuer à soutenir les romans et les auteurs qui ont écrit et dont les livres sont parus durant ce premier semestre, des livres sortis dans ce premier confinement avec les librairies fermées déjà, et puis des romans qu'on ne veut quand même pas laisser tomber dans l'oubli. Catherine École-Boivin, vous êtes avec nous aujourd'hui, bonjour.
Bonjour.
Alors, votre roman est sorti début 2020, Embrasser l'eau et la lumière. C'est un roman paru chez Albin Michel. Allez, vous allez nous en parler. C'est un roman très, très localisé à la fois et en même temps un caractère assez universel. Expliquez-nous.
Universel, oui, parce que je voulais parler des marais salants, des salines, qui dans le pays de Ré, à côté de Pornic, n'existent quasiment plus, alors que leurs voisines à Guérande ont été toujours maintenues en vie. Et j'habite à côté de ce lieu-là, et j'avais envie de vous raconter cette magie, la magie des salines, la magie de l'eau douce quand elle les recouvre, et la magie des gestes et des femmes qui y ont vécu. Et j'ai choisi ce titre, Embrasser l'eau et la lumière, parce que pour faire du sel, il faut de l'eau, il faut des bras, il faut beaucoup d'amour, beaucoup de force aussi. Et ensuite, il faut du vent et du soleil. Donc, je me suis intéressée aussi à l'histoire locale, parce que quand on, ces immenses étendues d'eau abandonnées maintenant, qui sont reprises par deux personnes actuellement, eh bien, je me suis demandé quel drame les avait traversés, quelle joie et quel bonheur. Et c'est pour cela que je vous offre ce roman, qui est aussi d'après une histoire vraie, puisque le personnage de ce roman, Agnès et Lucille, ont existé. Et c'est Lucille qui m'a raconté sa vie.
C'est aussi l'histoire de femmes qui doivent se faire une place dans une tradition, dans un monde dominé par les hommes.
Par les hommes, Lucille, qui s'appelle Lulu, enfin son surnom c'est Lulu, elle veut reprendre les salines de son père, de sa famille, et elle est instruite par le sel, par les gestes, par une vieille femme qui s'appelle Agnès, qui est une bretonne, puisque en ces temps-là, Pornic est encore breton. Et donc toute cette contrée est habitée par cette femme, Agnès, qui est une vieille, une vieille saunière, une vieille paludière qui vit seule dans sa petite bourrine et qui continue à perpétuer le sel alors que les hommes auraient voulu l'épouser, etc. Et cette femme va la former au sel en cachette, et Lucille va tomber amoureuse de ce métier. Et Agnès est assez magique parce qu'elle ferme les salines tous les soirs avec une veuse, une cornemuse bretonne. Et ça, moi je ne l'ai pas connue, mais je l'imagine quand je me promène maintenant dans les marais, j'entends quasiment sa veuse. Je dis c'est tellement beau cette idée que le soir elle ferme ses salines avec cet instrument au son des cloches, au son d'Angélus. Hein. C'est vraiment très beau. Enfin, l'image est très belle et je voulais vous parler d'Agnès aussi également avec ses livres.
Voilà, et on retrouve ces paysages très, très séduisants, très magiques. Hein. On retrouve ces personnages dans votre livre. Merci Catherine École-Boivin. Je rappelle le titre de votre livre, Embrasser l'eau et la lumière, c'est paru chez Albin Michel. Un livre de Catherine École-Boivin. Merci beaucoup.
Au pied de la lettre, présenté par Christophe Hénin.
Et c'est l'heure de la poésie avec Stéphane Bataillon qui va nous présenter son coup de cœur de la semaine.
Bonjour Christophe. Alors oui, cette semaine je voulais vous présenter l'anthologie de poésie personnelle de Charles Julliez qui sort aux éditions Gallimard dans la collection de Poche Poésie en parallèle de la parution du 10e volume de son célèbre journal aux éditions POL qui s'intitule « Le jour baisse » et qui couvre la période 2009 à 2012. Alors ce large choix de poèmes, lui, couvre un temps plus vaste, depuis le début des années 90 jusqu'à 2012, et présente des extraits de toute sa poésie, donc un long chemin de vers, qui garde une cohérence incroyable et qui est introduit par une grande préface de Jean-Pierre Siméon, qui vaut à elle seule le détour pour ceux qui auraient déjà lu certains autres recueils de Judier. Il y dit notamment « Poésie minimale, dit-on un peu vite, de l'art poétique de Julier. Tout dépend de quoi on parle et ce qu'on mesure. Rien de plus hostile au projet de Julier que l'ornementation. Exit donc la séduction et le prestige de l'image. » Et effectivement, dans toutes ces pages, c'est vraiment un rapport direct aux émotions, au vécu, qui est mis en avant, plutôt que des formulations ou trop d'images qui nous éloigneraient peut-être de cette vie à la fois dure, bousculée, et à la fois très chaleureuse, où le lien est toujours mis en avant. Je voulais vous lire, pour illustrer cela, un poème. Alors un poème d'amour, un poème à la fois charnel et transcendant, qui pourrait faire penser à une version moderne du Cantique des Cantiques. Toi, qui n'as ni forme ni visage, mais qui est cette femme avec laquelle je suis en incessant dialogue. Cette nuit, tu étais là. Violent était mon besoin de te porter en moi, de me glisser en toi, me mêler à ton secret, m'enrichir de ta substance, et des mots gonflés de notre fusion se sont mis à bruire. On finit par enfanter ce chant où j'avais le désir de te garder. Accepte que ma voix sourde le dépose en ta mémoire et qu'il te donne à ressentir la vénération que je te voue. Voilà, donc un très beau recueil, Charles Julier, pour plus de lumière, l'anthologie personnelle, 448 pages, et c'est dans la collection Poésie Gallimard. Merci.
Merci Stéphane Bataillon. Alors moi aussi je vais vous faire une petite lecture, simplement c'est extrait de L'Anomalie d'Hervé Le Tellier. Aucun auteur n'écrit le livre du lecteur, aucun lecteur ne lit le livre de l'auteur. Le point final, à la limite, peut leur être commun. Et ben voilà, c'est le point final de cette émission. Merci à tous pour votre participation. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Tombé du ciel, Caroline Tinet, c'est paru aux Presses de la Cité. L'Anomalie, Hervé Le Tellier, paru chez Gallimard. Et puis Embrasser l'eau et la lumière, de Catherine et Cole Boivin, c'est paru chez Albin Michel. Merci à Pierre-Henri Paget, à la réalisation et à la technique, qui fait des miracles dans cette période de confinement. Merci à Stéphanie Gallet pour les lectures, Stéphane Bataillon pour la poésie au pied de la lettre. C'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter l'émission sur le site www.rcf.fr. Allez, on confine et on lit. Thank you.